J'en viens maintenant au premier point, qui est un débat sans vote, qui est le rapport sur la situation de la ville de Metz en matière de développement durable. Et je demande à M. Darbois de rapporter, s'il vous plaît.
Merci, M. le maire. Chers collègues, il y a près de 10 ans, la ville de Metz s'était engagée à élaborer un programme, une méthode chiffrée et calée dans le temps, permettant à notre ville de faire sa part de travail dans l'enjeu du développement durable et solidaire, de faire ensemble notre part en tentant d'être efficace et en évitant le greenwashing et la chasse systématique aux labels et aux autres hochets. Ce rapport est la photographie, le résumé de l'état de notre ville en matière de développement durable et solidaire, arrêté à fin 2016. Mesurer nos forces, nos faiblesses, se comparer, c'est important. Et lorsqu'on se compare, nous n'avons vraiment pas à rougir du travail accompli depuis 2008. Et je tiens à remercier le personnel trop peu nombreux de la mission développement durable et solidaire qui fait le job, comme on dit. Pour Monsieur le maire et moi-même, l'écologie urbaine est une priorité, mais cette priorité, je veux la partager avec l'ensemble de mes collègues, chacune et chacun dans sa délégation. Cela s'appelle la transversalité et dans ce domaine, nous partageons nos réussites et nos échecs. La transversalité entre élus, certes, mais aussi la transversalité entre tous les services de la ville de Metz, avec les habitants, avec nos partenaires, c'est essentiel. Vous dire qu'aujourd'hui nous pouvons affirmer que nos résultats sont positifs dans la quasi-totalité des objectifs de notre second agenda 21. Alors est-ce suffisant ? Est-ce suffisant face à l'évidence du changement climatique dont nous constatons les terribles effets ? Les scientifiques sont unanimes, on est dedans et ce ne serait que le début. Monsieur le maire me le rappelle parfois, d'autres aussi, il paraît que je ne suis jamais content. Je vous remercie de le constater. C'est vrai, je ne suis jamais content. Et dans ce domaine-là, encore plus. En tout cas, ce document montre ce qui a été réalisé, c'est bien, mais est-ce déraisonnable de dire haut et fort qu'il faut aller plus loin et de dire que nous n'avons pas le choix ? C'est vital. C'est pourquoi nous avons engagé une large démarche de concertation, large, c'est-à-dire avec le maximum d'acteurs, les citoyens, les acteurs sociaux, les associations, les services de la ville, bien sûr, et au-delà de la ville-centre. Cette concertation sera le creuset de l'écriture du troisième agenda 21 que je proposerai à Monsieur le maire et à mes collègues avant de le présenter ici. Ce sera, si vous en êtes d'accord, notre nouvelle feuille de route pour aller plus loin. Projeter la ville au-delà de 2030 dans des projets faisables, acceptables et partagés, car on ne fait rien seul. Être dans une démarche efficace, j'insiste sur efficace, d'atténuation et d'adaptation au changement climatique sur notre territoire. Ce n'est pas qu'une ambition, c'est une nécessité. Je ne vais pas vous lire tout le rapport arrêté à fin 2016, juste vous rappeler les trois axes d'orientation, l'exemplarité, la préservation de notre environnement et de nos ressources, le vivre ensemble. Je ne vous rappelle pas les finalités du développement durable. Page 5, je sais que vous avez tous lu ce rapport, mais soulignez particulièrement que l'engagement pris en 2009 de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de plus de 20%, on peut dire qu'il est atteint, c'était à l'horizon 2020. Il est de 47% sur le patrimoine et les services, et j'attends d'avoir les chiffres définitifs sur l'ensemble de la ville, parc privé aussi. Ça, vous le trouvez, page 13 et 14. Là encore, nous pouvons dire que nous n'avons pas attendu 2017 pour mettre la transition énergétique en marche, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, la délibération résume tout cela et nous vous la soumettons à votre approbation, même s'il n'y a pas de vote. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Darbois. Avant de passer la parole aux différents orateurs inscrits, je voudrais, parce que je ne l'ai pas fait, indiquer les excusés et les procurations. Monsieur Jean a donné une procuration à Mme Agamemnon. Madame Migaud a donné une procuration à Monsieur Cambianica. Madame Sallusti, excusez pour le début de la séance, a donné une procuration à Madame. Allez là. Mille excuses. Madame Guermiti, excusez pour le début de la séance, a donné une procuration à Madame De Oliveira. Madame Riblet a donné une procuration à Madame Antoine Fabry. Madame Hommel a donné une procuration à Monsieur Toulouse. Monsieur Liogé, excusez pour le début de la séance, a donné une procuration à Monsieur Nziou. Monsieur Belladad, excusez pour le début de la séance, a donné procuration à Madame Sagrafena. Monsieur Rossion a donné procuration à Madame Gourlot. Monsieur Gourlot, pardon, excusez-moi, Monsieur Gourlot. Je ne vous confonds pas. À Monsieur Gourlot, Madame Colin Sterlet a donné procuration à Madame Nicolas. Et Monsieur Eldrin a été excusé pour le début de la séance. Et enfin, Madame Thomas a donné procuration à Madame Grollet. Madame Arnold a de procuration à Madame Zimmermann. Parfaitement, Madame Zimmermann, vous avez raison. Voilà, merci. Donc, après ce rapport de Monsieur Darbois, je donne la parole à Monsieur Thierry. Alors, sont inscrits Monsieur Gourlot pour 4 minutes, Madame Singer pour 3 minutes, Madame Nicolas pour 2 minutes.
Non, pour 5.
Si, Madame, c'est comme
pour
ça.
Pour 5. Monsieur le maire, le tribunal...
Vous n'avez pas la parole, madame, s'il vous plaît. Je vous demande monsieur de ne pas m'interrompre.
Monsieur
madame
le
Zimmermann,
maire.
Madame Audouy, monsieur Thiel
ça va mal
et monsieur
tourner,
Lebeau
monsieur le maire, hein.
Auront 10 minutes à se partager. Madame Marilyn Molinet interviendra pour 3 minutes. Monsieur Cambianica, madame Sagrafena se partageront 4 minutes. Et madame Bory... Madame Bory, non. Madame, alors, Monsieur Scuderi, Madame Agamemnon, Monsieur Lekadir auront 10 minutes à se partager. Voilà, Monsieur Gourlot.
Merci, Monsieur le maire. Je ne sais pas si je tiendrai en 4 minutes, mais enfin, dans une intervention sur le développement durable, vous pourrez faire peut-être une intervention durable, un petit peu. Donc, ce petit feuillet de 30 pages, fort agréable à lire, bien illustré, certes, nous est présenté comme un rapport, mais n'en possède pas la substance. Et il manque d'informations de fond. Il est la conséquence de multiples lois qui s'additionnent, s'empilent les unes sur les autres et qui souvent, au lieu de nous éclairer, nous égarent en voulant embrasser trop de domaines et, comme chacun sait, qui trop embrasse mal étreint. Monsieur Darbois nous met en garde de faire ensemble notre part en tentant d'être le plus efficace possible tout en évitant le greenwashing ou blanchiment écologique. C'est pourtant ce que fait cet ersatz de rapport où toute action municipale est teintée d'écologie alors que ce n'est pas toujours le cas et cela peut, à minima, se discuter. Néanmoins, on ne peut que souscrire aux trois axes d'orientation de l'agenda 21. Mais ça, à savoir, être une collectivité exemplaire, préserver l'environnement et les ressources pour les générations futures, développer une ville harmonieuse et le vivre ensemble. Cela me semble béaba de toute politique responsable. Alors, glanons au fil des pages de ce rapport quelques réflexions. Page 8. 3192 enfants formés à la sécurité routière. Fort bien. La sécurité routière peut être rangée dans le développement durable, puisque cela permet d'éviter les accidents et d'augmenter la durée de vie de nos enfants. Donc, pourquoi pas? S'y trouve aussi un cycle de conférences qui s'est tenu sur nature et transition écologique. 220 personnes ont échangé avec 5 conférenciers, soit 44 personnes à chaque conférence, encore étaient-ce peut-être les mêmes. C'est bien, mais reconnaissez que, hélas, sans doute, la population messine ne se rend pas en masse à de tels événements. Manque de sensibilisation, sans doute. S'y trouve aussi le gadget des pieds de la citoyenneté au square du Luxembourg. Dommage qu'il soit déjà détérioré. Manque de citoyenneté de certains, sans doute aussi. Mais il est vrai que la sensibilisation à l'environnement et à la citoyenneté qui passe par nos écoles est essentielle et même vitale pour que les générations futures puissent viser à plus d'harmonie et au respect des autres. Ceux que nous voyons, hélas, souvent aujourd'hui, il y a un manque de civisme et c'est vrai que ça commence, les bonnes habitudes se prennent le plus tôt possible. Après, il est bien souvent trop tard. Page 11 et 12, être une collectivité exemplaire avec les clauses sociales et environnementales, très bien. Mais quelles sont ces clauses? Quels sont les résultats? Les entreprises concernées, le public concerné, la durabilité des emplois, le suivi de ces personnes. Tous ces sujets mériteraient de plus amples réponses et de développement. Que 3 petits cartouches avec 3 petites lignes. C'est là où il manque un peu de fond. Par exemple, sur les 123 jeunes de 18-25 ans en extrême précarité qui ont bénéficié d'un suivi, quelle est leur situation à l'heure actuelle? Combien d'entre eux ont trouvé un emploi durable? Je pose la question. Je note aussi le terme d'éco-administration. Mettre écho devant chaque mot rendra-t-il plus vertueux nos actions? N'est-ce pas là du greenwashing? Toute administration se doit par nature d'être vertueuse et écologique. À quand les éco-agents, les éco-maires, les éco-conseillers? Parfois tout cela en devient ridicule. Enfin, la conférence internationale des Fair Trade Tao. Encore une fois, ça aurait mérité une petite traduction française. Cela ne mange pas de bread, pardon de pain. On est tout de même heureux d'apprendre qu'un abattement de 10% sur l'abonnement annuel permettra d'inciter les agents à prendre le bus. À quand cette généralisation à l'ensemble de la population messine? Une bonne écomesure, un écotransport à soumettre à un écovote de notre éco-conseil. Sur la mobilité, je pense que nous devrions d'ailleurs étudier cela de plus près, étudier de plus près la possibilité du transport collectif gratuit pour les usagers ou alors une gratuité partielle, soit à certaines heures, comme à Singapour aux heures de pointe, soit sur certaines lignes. À nous de trouver des solutions alternatives à la voiture, pour le moins sans taxer nos contribuables en permanence. Et je vous suggère de mettre à l'étude cette possibilité à Metz comme à Metz Métropole. Page 13. La consommation d'énergie par la ville reste plus ou moins stable, sauf pour le chauffage qui diminue sensiblement d'année en année. Mais pourquoi ce rapport n'inclut-il pas un comparatif des sommes faramineuses qu'il a fallu dépenser pour y arriver et ce que cela aurait coûté sans les travaux d'isolation ou autre raison? J'ai peur que plusieurs générations ne suffisent pas à compenser le gain et les dépenses. Nous mettre une belle courbe qui explose jusqu'à 48%, pourquoi pas? Mais il faut rappeler que le chauffage urbain reste principalement alimenté par l'UVE, unité de valorisation énergétique, ou usine d'incinération, dans laquelle, si je ne me trompe, aucun pré-traitement de déchets n'est effectué. Pas de tri de métal, de plastique ou de diverses matières, comme cela se pratique depuis plus de 30 ans à Paris, par exemple. Malheureusement, vous avez besoin de cette ressource gratuite, payée par la taxe d'ordures ménagères, pour alimenter le chauffage urbain. On ne peut que vous féliciter pour votre tentative de chauffage bio, mais que dire de la rotation de camions continuels pour alimenter une centrale biomasse de Chambière? Quel est le bilan carbone de cette noria d'engins, de ce balai de véhicules polluants? Quel impact sur la qualité de l'air? Quel est aussi l'impact sur les ressources bois? Car de nombreuses collectivités copient notre choix de choisir le bois comme combustible. N'y a-t-il pas là gâchis de ressources naturelles? Page 17. On vante la boule de 9 mètres illuminée comme le moins énergivore. Mais on voit aujourd'hui le retour des sculptures Mickey sur glace, place de la République, hyper énergivore. Comprenne qui pourra. Que fait M. Darbois et votre éco-majorité? Page 18. Bravo pour l'halte ferroviaire de Metz-Nord et le doublement des trains par jour et pour le développement des pistes cyclables, même si c'est loin d'être encore parfait en la matière. Page 19 et 20, que du positif. Page 23, on note l'effort pour l'agenda d'accessibilité programmée et la sensibilisation des scolaires messins à la propriété urbaine.
Voir le contre. Monsieur Gourlot, vous avez bien, vous avez demandé 4 minutes.
J'ai demandé 4 minutes, mais je ne vous embêterai plus du reste du Conseil. Alors, voilà, si je puis dire, embêté. Donc, je demande une petite intervention durable. Je synthétise à fond. Et je vais vite. TGV, Thierry Gourlot, vite.
Vous voyez, conclusion directement.
Ah non, conclusion, non, je ne peux pas. Ah, voilà, quand même. Voir le contre-exemple. Alors, voilà, je vais essayer. Bon. Je supprime une demi-page. Page 25. Prise en compte de nos seniors. C'est une population en pleine expansion qui mérite bien que l'on s'en occupe d'eux. Je vais bientôt les rejoindre, donc je m'en félicite. Mais je note une augmentation des aides alimentaires et d'énergie, et là, ce qui n'est pas bon signe. Page 26. Bel effort fait dans le tourisme à poursuivre. Enfin, j'en termine sur quelques suggestions. Il me semble que trop souvent négligées, la rénovation thermique et phonique doivent être des priorités. Il nous faut aussi, en matière de foncier, non seulement construire, mais rénover l'existant, rénover l'ancien, et aussi choisir des produits de chez nous, des produits lorrains, même si ce n'est pas lorrain ou du Grand Est, au moins européen, quand on pense au choix des matériaux chinois inadaptés à nos climats et qui coûtent plus cher au final, comme ces horribles pavés jaunes ou devenus noirs et transformés en patinoires. Metz pourrait devenir un modèle en la matière d'écologie urbaine, et il y a sa source avec Jean-Marie Pelt. Il nous faut imposer un pourcentage minimum d'autoproduction d'énergie sur les nouvelles constructions, comme sur le choix des matériaux. Et il nous faut être innovant dans tous les domaines, comme le mobilier urbain dépolluant, comme l'introduction de micro-algues dans le mobilier urbain pour dépolluer des villes. De nombreuses idées fusent à travers le monde. Metz peut devenir une référence, un modèle, un inspirateur comme vous, en matière d'écologie urbaine.
Merci.
De ville-jardin, avec la technologie d'aujourd'hui et de demain. De l'audace, toujours de l'audace, disait le docteur Kieffer.
Merci.
Bon.
Alors,
mais
la
moins
parole est à Madame
une ambition durable,
Saint-Gère.
Une ville durable. Et bon, j'avais encore 2-3 pages.
Merci.
Merci.
Madame Saint-Gère.
Merci.
Allez-y, madame.
Merci, monsieur le maire. Alors, monsieur le maire, la ville de Metz a souhaité s'engager effectivement depuis longtemps pour un développement durable et harmonieux sur son territoire, à travers notamment l'élaboration d'un agenda 21, avec le souci d'intégrer cette dimension dans l'ensemble des politiques publiques qu'elle mène. Comme l'indique le rapport présenté aujourd'hui, la première finalité était notamment de mettre en place des actions limitant notre consommation énergétique et diminuant nos émissions de gaz à effet de serre notamment. Aborder la question des gaz à effet de serre amène naturellement à s'interroger sur la place de l'automobile et sur son utilisation au quotidien par la population. Bien entendu, monsieur le maire, nous avons conscience que la nécessité de réduire la part de l'automobile dans les transports urbains est un mouvement de fond, entamé dans de grandes capitales européennes réellement saturés et qui n'ont eu d'autre choix que de rendre le stationnement payant et très cher. Ce qui était loin d'être notre cas, mais ça... C'est souvent le propre de votre majorité, monsieur le maire, créer des problèmes là où il n'y en avait pas. Comme beaucoup de médecins présents mardi soir au one-man show de votre adjoint sur le sujet, j'ai été affligée de constater que malgré les nombreuses interventions pertinentes des médecins confrontés désormais à votre décision de rendre payant plus de 1 800 places de stationnement dans des quartiers pourtant résidentiels, hein, c'est pourtant résidentiel, les réponses apportées par votre adjoint, que dis-je, les réponses imposées, montrent que votre majorité tente par tous les moyens de justifier cette décision avec des arguments à côté de la plaque et qui ont surtout permis à la salle de rire à de multiples reprises. Dommage que vous n'étiez pas là, monsieur le maire, car vous auriez entendu votre humoriste globe-trotteur faire très fort, réalisant des comparaisons hasardeuses avec le Luxembourg, l'Allemagne et même le Japon. Je vais donc vous livrer les moments les plus navrants du spectacle et les commenter. Metz Métropole est compétente sur le transport, mais ce n'est pas important car c'est nous, vos interlocuteurs. Et puis une autre phrase qui disait « Les pendulaires ne sont pas les bienvenus à Metz ». Moi, j'imagine que cette phrase fera vraiment plaisir au président Jean-Luc Baule. Au-delà de la bêtise de ses propos, j'aimerais tout de même rappeler que la Cour des comptes, dans son rapport annuel de 2017, recommande que dans les agglomérations, la gestion du stationnement requiert notamment une approche d'ensemble au niveau de celle-ci. En effet, la loi prévoit que dans les plans de déplacement urbain des PSI soient définies les zones dans lesquelles la durée maximale de stationnement est réglementée, les zones de stationnement payant, ainsi que la tarification des stationnements sur la voirie et dans les parcs publics. Les mesures prises au niveau de notre ville doivent donc être compatibles avec les prescriptions du PDU. Et à Metz, ces prescriptions seront d'autant plus importantes lorsque notre EPSI aura notamment le statut de métropole au 1er janvier 2018, qui lui donnera une compétence de plein droit sur la voirie, les parcs et les aires de stationnement. D'ailleurs, pouvez-vous nous dire si vous avez associé Metz Métropole à votre politique de stationnement hallucinante et ainsi anticiper ce transfert de compétences? Je dis cela, monsieur le maire, car j'ai comme un doute quand je vois que vous avez déplacé le problème du stationnement de nos quartiers aux villes à proximité de ces quartiers. Je pense ici à Montigny-les-Metz ou Longeville-les-Metz et à leurs habitants. Un bien bel exemple de concertation, en tous les cas, avec nos villes partenaires. Autre moment choisi, monsieur le maire, de cette réunion. Pour les résidents, le deuxième macaron sera à un tarif identique au premier, soit 204 €, et les résidents de l'hypercentre pourront l'utiliser dans les nouvelles zones de stationnement.
Madame, je vous propose de reprendre sur le stationnement.
Monsieur,
comme vous avez demandé 3 minutes.
Monsieur le maire,
comme
vous
savez, êtes hors sujet,
je vais me permettre
de vous couper.
Je
vais vous couper, madame, vous n'êtes pas dans le sujet,
non,
et c'est regrettable.
Je suis désolée, c'est bien
vous...
dommage, parce que justement,
madame,
à la fin, vous allez avoir...
Madame,
des propositions,
vous n'êtes pas dans le sujet.
Justement,
alors, faire un cavalier à la rigueur.
Non,
mais
ce n'est pas
ne
un cavalier.
En dépassant
c'est
du temps,
du développement
s'il vous plaît.
Durable. Mais c'est du
alors,
développement durable qui ne tient
vous
pas.
Vous aurez maintenant
maire.
La parole
je
sur le stationnement.
Je suis désolée.
À chaque fois, si vous voulez.
Dans ces cas-là, je vais. Alors, je vais demander la parole pour les autres points
eh bien,
où je
écoutez,
n'ai pas demandé la parole.
Bien,
j'ai demandé
alors,
la parole à 3 reprises. Je vais demander la parole à 3 reprises. Et je la demanderai dans ces cas-là à d'autres points où je n'étais pas inscrite. Puis comme ça, ça me permettra de terminer.
La parole est à Madame Nicolas, si vous voulez nous raconter la réunion d'hier. On se reporte au Républicain Lorrain. Il a fait un très bon compte-rendu. La parole est à Madame Nicolas. Madame Nicolas, vous avez la parole. Madame Singer, vous avez dépassé votre temps de parole sur un sujet différent de celui qui est à l'ordre du jour. Je vous remercie de laisser parler Madame Nicolas.
Merci, Monsieur le maire. Bon, bah, écoutez, de toute façon, comme le rapport sur le développement durable est assez léger, cette année, je vais aller à l'essentiel, monsieur le maire. Comme chaque année dans ce rapport, il n'y a pratiquement aucun point sur la lutte contre la précarité énergétique. On a seulement aidé 31 personnes dans le plan Habiter Mieux. C'est peu, c'est très peu quand on sait que la ville de Saint-Dié a traité 400 dossiers l'année dernière. Le développement durable, vous nous en parlez tout le temps, c'est la transversalité. Qui dit transversalité, on pourrait penser coordination des travaux. Lorsqu'on refait dans un quartier les rues et les trottoirs, on pourrait peut-être profiter, je vous l'ai déjà dit, pour faire de l'enfouissement de réseau. Lorsque vous faites de la rénovation au niveau du réseau du chauffage urbain, comme vous l'avez fait cet été rue Haute-Seille, on aurait peut-être pu penser à y mettre en même temps un point d'apport enterré. Lorsque vous développez un nouveau quartier comme celui de l'amphithéâtre, ça aurait été pertinent de penser à y mettre des pistes cyclables, il n'y en a pas. Ça aurait été aussi très très pertinent de penser que le bus pourrait peut-être un jour y passer. Ça nous aurait évité de reprendre l'emprise de la rue, parce que tout d'un coup on se rend compte que la rue n'est pas assez large pour y faire passer les bus. Et je vous fais grâce du nombre de places de stationnement nettement sous-évalué par rapport à l'importance des infrastructures mises en place dans ce nouveau quartier. Quant au plan de circulation, ça va relever tout simplement du gag. Moi, je ne vois pas comment vous allez éviter les engorgements dans ce quartier qui auront forcément des répercussions en bas de Queuleu, place Mazel, bas du Sablon, sans compter l'augmentation de la bronchiolite, chère à votre adjoint, M. Cambianica. Et vous ne pourrez pas mettre tout le monde dans le bus, parce que le réseau du bus, il n'est juste pas conçu pour absorber l'équivalent de 80 000 véhicules supplémentaires par semaine. Enfin, si on avait voulu être précurseur en matière de développement durable, je vous l'avais déjà proposé en 2015, on aurait pu imposer à toute nouvelle construction de la RT20, c'est-à-dire de la construction passive, qui sera obligatoire en 2020. Pour mémoire, je vous rappelle que le secteur du bâtiment, c'est lui qui représente la plus grande part de consommation d'énergie, 40%. C'est sur ce secteur-là qu'il faut faire des économies. Nos amis luxembourgeois imposent cette RT20 depuis cette année à toute construction neuve. Et ne venez pas me dire, comme l'avait dit M. Lioger, que ça va coûter plus cher, puisqu'à Strasbourg, ils ont réussi à construire une tour à énergie positive, même pas passive, et c'est une première mondiale, au même prix qu'un bâtiment classique. Ça, c'est ce qu'on peut appeler une vraie politique volontariste en matière de développement durable. C'est vrai que Strasbourg, au passage, ils ont aussi obtenu leur classement à l'UNESCO pour leur quartier impérial en moins d'un an. Je vous remercie.
Merci, madame. Donc, Monsieur Thiel, Madame Audouy et Madame Zimmermann, pour 10 minutes ensemble. Allez-y, qui commence ? Madame Audouy.
Merci, Monsieur le maire. Comme il est précisé dans le projet de délibération, le rapport sur la situation en matière de développement durable est une obligation légale prescrite aux grandes collectivités par la loi Grenelle 2. Ce rapport nous est présenté aujourd'hui, donc préalablement au débat sur le projet de budget de notre collectivité. Et justement, concernant la déclinaison budgétaire, la lecture de ce document amène à exprimer plusieurs remarques. Ce rapport comporte peu d'éléments financiers et quand ils existent, par exemple, page 23, on voit que 14 millions d'euros de travaux pour l'accessibilité sont programmés sur 9 ans dans les établissements recevant du public. Ce rapport ne présente pour autant aucun impact budgétaire, notamment en relation avec le budget global de la ville. Peu d'éléments financiers. Par contre, on trouve davantage de données chiffrées sur l'état de notre ville en matière de développement durable et solidaire, état arrêté donc à la fin de l'année 2016. Mais un certain nombre d'entre elles ne peuvent pas être interprétées en l'absence de références de comparaison. Alors, je prends par exemple celui de la page 25 relatif aux aides accordées par le CCAS, pour lesquelles on remarque une augmentation entre 2015 et 2016. Mais cette augmentation est-elle le témoin de la paupérisation de la ville ou d'une meilleure prise en charge des personnes en difficulté ? Il manque des éléments pour permettre d'approfondir l'analyse qui reste donc descriptive. Enfin, pour conclure sur les chiffres, le bilan en termes de développement de l'attractivité, du tourisme, de la culture, des sports et loisirs de notre ville, tel qu'il apparaît en page 26 de document, eh bien ce bilan reste contrasté. Pour les animations estivales, le document ne manque pas d'évoquer des bons chiffres, mettant ainsi en valeur le succès remporté par les activités en lien avec le développement durable qui affiche des taux de remplissage atteignant 98%. Mais c'est passé sous silence que la moyenne d'occupation des activités liées aux animations estivales est en baisse pour l'année 2016, ce taux se montant à 66% contre 74% en 2015, avec des fréquentations quasi nulles pour certaines activités décentralisées dans les quartiers qui étaient proposées pour la première fois. En conclusion, j'aurais aimé trouver dans ce rapport davantage d'éléments financiers soulignant l'engagement budgétaire en la matière, ainsi que des références de comparaison. J'ai également lu des rapports de développement durable d'autres communes qui ont mis en valeur des témoignages d'habitants et j'ai trouvé que cette présentation était attractive parce qu'elle permettait une forme de projection et d'adhésion à ces enjeux. Cela dit, nous encourageons bien entendu la poursuite de l'engagement de la ville de Metz en faveur du développement durable et je vous remercie pour votre écoute.
Merci. Monsieur Thiel.
Oui, monsieur le maire, merci beaucoup. D'abord, je voudrais associer tout notre groupe. J'étais à ses obsèques, à l'hommage que vous avez rendu à Marielle Olizinski, qui était une collègue que nous apprécions beaucoup, toujours très humaine, très gaie, de bonne humeur, même au pire des moments. Elle me faisait penser à certains qui disent des Chinois, méfiez-vous du Chinois qui rit tout le temps, peut-être qu'il cache en lui une grande souffrance. Je vous remercie aussi pour autre chose. J'avais appelé votre attention sur l'ordre protocolaire. Je vois que effectivement, nos amis députés aujourd'hui se retrouvent à la bonne place. Et merci, monsieur le maire, d'avoir au moins pour ici fait un peu plus d'ordre. Enfin, j'en viens évidemment au rapport. Et je voudrais ici souligner tout ce que la ville de Metz a, par une phrase, hein, je vous rassure, a fait en cette matière dès les années 1971 et suivantes. Et je le fais d'autant plus en pensant à quelqu'un qui vient de nous quitter, qui était Roger Klein. C'est-à-dire qu'avec lui disparaît le deuxième grand personnage, je dirais, de l'Institut européen d'écologie, fondateur d'une école de pensée dont on n'a pas fini encore aujourd'hui de révéler la source immense qu'elle projette pour nous, pour l'avenir. Jean-Marie Pelt a disparu il y a peu, Roger Klein vient de disparaître. Je pense que, monsieur le maire, la ville aura à l'honneur de célébrer sa mémoire. Je vous fais confiance sur ce point en matière d'autographie, parce que je crois, et je parle avec mon ancienne collègue de l'Institut européen d'écologie, tout jeune élève, qui était Marie Isler ici, lorsque nous étions sur les mêmes bancs, ils ont considérablement apporté à cette nouvelle approche qu'on a appelée l'écologie urbaine. Et en pensant à Roger Klein, je suis allé dans ma bibliothèque et j'ai retrouvé La qualité de la vie et centre-ville, non pas dans l'édition originale qui date des années 70-80, mais dans la réédition qui en a été faite tout récemment, en 2014. Et je lisais ce texte avec grand intérêt, même si le rapport présente un certain nombre de chiffres, je veux dire, il donne une philosophie de pensée qui me paraît extrêmement intéressante. D'abord, il y a un élément qu'il n'y a pas dans le rapport, et là où je pense qu'on n'est pas très positif, c'est sur l'urbanisme, monsieur le maire. Il y a tout un tas de chapitres qui sont consacrés à l'urbanisme et à la qualité de la vie. Et je dirais que là, on a perdu beaucoup entre les années 70 de cette pensée et aujourd'hui, lorsqu'on voit, même si on parle évidemment de bâtiments qui sont mieux construits, je m'empresse de le dire, sur le plan des économies d'énergie, tout ça, René Darbois a raison de le souligner. En revanche, il y manque une dimension à proprement plus humaine. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'urbanisme autour du quartier de l'amphithéâtre, tout le quartier de l'amphithéâtre, ne m'apparaît pas répondre à ce qu'on appelle la qualité de la vie au sens de qualité de la vie, écologie et centre-ville, comme dans l'ouvrage de Roger Klein. Il y manque évidemment l'espace, il y manque les espaces de jeu, il y manque la nature incarnée, y compris dans son centre urbanistique. Enfin, que fait-on de l'eau? J'aurais voulu dans les nouveaux quartiers voir surgir des fontaines, comme au XVIIe, au XVIIIe siècle, sous le Moyen-Âge. Que fait-on d'un élément central qui ne fait pas partie du rapport, qu'on appelle la créativité? J'avais, à l'époque où j'étais adjoint à la culture, voulu un certain nombre de sculptures qui sont encore là. Ça fait aussi partie de ce qu'on appelle la qualité de la vie et du centre-ville. Enfin, monsieur le maire, et là j'enfourcherai deux de mes grands thèmes, deux thèmes qui ne font pas que cette ville donne les symboles et les signes de l'écologie urbaine. D'abord la ligne 3, j'y reviens pas, mais je vous le rappelle quand même, monsieur le maire, c'est la seule qui passe au centre-ville dans des rues étroites et piétonnes, que sont la rue des Clercs et la rue Serpenois. Je ne reviens pas sur mon souhait d'avoir à sa place des minibus qu'on puisse prendre et descendre à la demande. Mais je voudrais vous dire aussi votre manque de courage. Je sais que c'est à contre-vent et contre-sens de ce que bien de mes collègues même disent, mais je trouve quand même que l'on aurait dû s'abstenir de remettre du parking là où on l'avait enlevé. Je veux parler de la rue d'Estrée, je veux parler de cette... politique du moyen terme que constitue aujourd'hui le stationnement autour de la cathédrale. Alors vous êtes en train de refaire la rue du Vivier. Alors, rue d'Estrée, il n'y avait plus de voitures, vous en avez remis, mais rue du Vivier, il y a 4 ou 5 places de voitures qui sont juste derrière la cathédrale. J'espère qu'en refaisant cette rue, on ne les verra plus. Parce qu'à l'heure actuelle, quand je croise les passants, ils me disent « quel bonheur de retrouver une rue qui évoque le Moyen-Âge, comme c'était à Metz, et puis de voir au pied de la cathédrale une absence de voiture, ça serait vraiment très beau, d'autant que le pavage n'est pas mal, je le souligne pour une fois. » Eh bien oui, monsieur le maire, il y a tout ce contexte, et j'aurais aimé retrouver cela dans le rapport. Hélas, ce n'est pas le cas.
Oui, merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, Comme mon collègue Patrick Thiel, je souhaite oui aussi rendre hommage à Marielle. Pour moi, ça a été une conseillère qui avait une grande qualité, c'était l'humanisme. Et je crois que nous avons beaucoup d'exemples à trouver dans le travail qu'elle a accompli tout au long de ses deux mandats. Monsieur le maire, en ce qui concerne ce rapport, j'ai trois remarques à faire. Première remarque, c'est par rapport notamment à la page 17 du rapport, où on nous dit que 98 maisons ont bénéficié d'une thermographie de façade en vue d'éventuels travaux d'isolation. Monsieur le maire, dans d'autres villes, on a un petit peu plus que 98 maisons. Alors, j'ose espérer que c'est une erreur et que vous avez soit... Mais non, mais j'ose espérer que c'est une erreur ou bien je vous demanderai quand même de généraliser ces opérations comme dans beaucoup de villes, parce que c'est aussi par là qu'on peut éventuellement proposer aux propriétaires de faire des économies d'énergie. Deuxième autre point, c'est la page 17 du rapport, pardon. Deuxième autre point, la page 18 par rapport à la halte ferroviaire de Metz-Nord, elle est présentée comme un bel échange multimodal, c'est vrai. Et je crois que c'est, disons, vous comme moi, ça a toujours été dans les propositions que l'on faisait lorsque nous nous présentions aux élections. Il est vrai que la gare de Metz-Nord est quelque chose d'extraordinaire. Ce que je souhaiterais, c'est demander si le nombre de voyageurs dans la halte ferroviaire de Metz-Nord a augmenté, et si oui, dans quelle proportion entre 2014 et 2017. Parce que je pense que c'est un exemple extraordinaire à mettre en avant pour la ville. Troisième, dernier point. Ce que je souhaiterais savoir, vous avez à la page 11 marqué donc 35 marchés publics avec des clauses sociales, soit environ 3023 équivalents jours dédiés à la clause sociale. Bon, j'aimerais bien que vous me décliniez un petit peu les clauses sociales. Et surtout, ce que je souhaiterais savoir, c'est dans ce rapport, bien entendu, c'est normal, mais quelle est votre opinion notamment sur les travailleurs détachés qui sont employés par certaines entreprises et qui posent sans aucun doute un problème. C'est un problème européen, je le sais, mais également évoquer, c'est un petit cavalier, je le reconnais, la clause Molière, et avoir votre opinion sur la clause Molière. Dernier point en guise de conclusion. Monsieur le maire, avez-vous l'intention de, et j'avais déjà posé la question, de favoriser la pastille sur les pare-brises, parce que c'est un aspect, j'avais déjà posé la question, est-ce dans vos projets pour le prochain rapport l'année prochaine, et remercier les services pour ce rapport. Merci.
Madame Molinet, pour 3 minutes.
Oui, je vous remercie, Monsieur le maire. En fait, c'était 3 minutes partagées entre Madame Isler et moi-même. J'avais rectifié par mail, mais ce n'est pas grave. Je vais parler.
Allez-y, madame.
Je vais parler brièvement et je vais laisser la parole, si vous le permettez, à Marianne Isler pour 2 minutes. Je suis très grippée, donc je ne vais pas pouvoir m'étaler longtemps. Je voudrais juste répondre aux conférences et à la sensibilisation du public. Alors, je vais vous rassurer, le public n'est pas toujours le même. Les classes d'âge sont très variées. Ça va de l'étudiant jusqu'à la personne âgée. Et bien évidemment... on aimerait qu'il y ait davantage de monde, on aimerait toujours en tant qu'organisateur qu'il y ait davantage de monde, mais je peux vous assurer que ayant un passé d'organisation de colloques, de conférences assez nombreuses, ce chiffre ne m'étonne pas trop et je le trouve tout à fait convenable. Et puis par ailleurs, vous ne l'avez peut-être pas vu, elle existe depuis 2 ans, il y a une exposition à côté de Metz-Plage qui permet de toucher tout public, aussi bien la personne qui vient pique-niquer, se promener, que la personne qui fait son jogging. Et cette exposition en plein air permet de découvrir la richesse, la beauté de la biodiversité qui nous entoure. Et située à côté de Metz-Plage, elle touche évidemment un public populaire et elle permet de le sensibiliser. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.
Merci,
merci.
Madame.
Merci de partager. Alors, de manière très courte, effectivement, le développement durable, en fin de compte, c'est un autre choix de société. Donc, demander peut-être à l'adjoint au développement durable de changer totalement de société, c'est peut-être un peu lourd à porter tout seul. Et je pense que le projet qu'il a défendu aujourd'hui montre qu'on est tous solidaires et que ça y est, on a tous pris en considération la question du développement durable et que petit à petit, quand même, la transversalité, elle commence à exister. Je voudrais remercier Patrick Thiel d'avoir parlé de Roger Klein. Il m'envoyait une lettre qui est signée le 14 septembre, donc juste quelques jours après sa mort, pour nous encourager dans ce qu'on faisait au niveau de l'Institut Europe d'écologie, et je tenais à vous le faire savoir. Et enfin, je voulais dire que dans le cadre du vivre ensemble, parce que le développement durable, c'est aussi ça, c'est vraiment comment vit-on ensemble. Eh bien, il y a des gens aujourd'hui sur Metz qui sont exclus, pas de notre fait. Je pense par exemple aux personnes qui sont à Blida, le camp de Blida. On espère vraiment qu'arrive la date fatidique où on doit mettre les gens à l'abri parce qu'on entre en période hivernale, parce que vraiment, dans le cadre du bien vivre ensemble ou tout simplement du vivre ensemble, même si c'est de la responsabilité de l'État et du préfet, nous, en tant qu'élus, on ne peut pas se satisfaire de cette situation. Et je crois qu'il faut qu'on le dise et qu'on le répète haut et fort pour que l'on nous entende. Et tout ce que j'espère, monsieur le maire, c'est que ces gens seront à l'abri durant la période hivernale. Et si c'est possible durant la période hivernale, on se pose la question pourquoi ce n'est pas possible durant le reste de l'année. Je vous remercie.
Merci, madame. Madame Sagrafena et Monsieur Cambianica, ensemble pour 4 minutes.
Oui, je ne vais pas être très longue. Je disais que ce rapport sur la situation de la ville de Metz en matière de développement durable et solidaire donne à voir chaque année les efforts accomplis par les acteurs de la ville. Je trouve que c'est un rapport qui, par certains éléments, reste humble. Quand je vois à la page 24 renforcer les liens intergénérationnels et le dialogue entre les habitants, nous avons, au niveau, en tout cas, d'une politique de la parentalité, puisque nous allons avoir le novembre de la parentalité, quelque chose aussi à montrer dans cet agenda 21. Nous avons aussi la semaine de la petite enfance qui est aussi à montrer dans cet agenda. Quelque part, si vous voulez, monsieur le maire, je me félicite tout ce qui se fait, mais dans une transversalité plus grande, il ne faudrait pas oublier et à donner à voir ce que d'autres services font aussi. Voilà, je vous remercie, monsieur
Merci
le maire.
Merci beaucoup, madame. Monsieur Cambianica.
Merci, monsieur le maire. Avant de développer mon propos sur le développement durable, je voudrais dénoncer le grossier mensonge qui a qualifié mon intervention de la semaine de one-man show. D'abord parce que pendant près de 3 heures, de nombreux médecins ont pu s'exprimer en toute liberté et avec beaucoup d'attention de la part des... S'il vous plaît, ne faites pas la même pantomime que la dernière fois.
Monsieur le Comédien, allez-y, mais
de nombreux médecins ont pu s'exprimer en toute liberté. Ensuite, parce que lorsque ce fut nécessaire, mes collègues sont venus éclairer le débat. Et il y avait de nombreux collègues qui étaient présents. Enfin, ce n'est pas un one-man show, car il y eut aussi le spectacle d'une pauvre pantomime de certains élus d'opposition, et donc c'était un spectacle un peu plus complet que ce que vous avez décrit. Je vous remercie. Je passe donc à mon commentaire sur le développement durable. Je ne vais pas relire ce qui est très bien présenté dans ce document, nous allons tous le faire si ce n'est déjà le cas. Cependant, je voudrais souligner l'excellent travail réalisé par la LEC pour aider aux économies d'énergie dans les logements et qui mérite d'être de plus en plus encouragé et amplifié. Je rappelle à cet égard que les audits qui sont faits le sont sur des propriétés privées, qu'il faut au moins l'accord du propriétaire pour que cet audit se fasse. Il ne s'agit pas de s'immiscer dans la vie des gens. Nous devons intégrer ce qui est encore largement améliorable et je veux faire ma part En témoigne la dizaine d'heures consacrées à expliquer nos actions à la presse. La pédagogie à destination des adultes, car nous faisons déjà un important effort en direction des milliers d'enfants avec la complicité bienveillante de l'éducation nationale. Pas seulement de l'information, mais aussi du dialogue. L'Institut européen d'écologie pourrait ainsi élargir son champ d'action sur l'explication et la mise en perspective de nos choix politiques. Si tous nous invoquons la COP21, combien dans cette Assemblée, moi compris, sont capables d'en décliner les décisions ? Le personnel municipal prend sa part du changement de comportement et de processus, et cela ne fera, je l'espère, que s'amplifier. Les VAE bien utilisés, comme l'autopartage, en sont le symbole. Le pôle mobilité est pleinement engagé, que ce soit dans la gestion des éclairages ou dans le plan de circulation et de stationnement décidé en 2016, et qui se met en place, pleinement engagé dans la stratégie d'écologie urbaine présentée par René Darbois. Nous devons, par la densification urbaine engagée, permettre en même temps la préservation d'un maximum de zones vertes. Nous devons, par une meilleure gestion des outils que sont les différents modes de transport et de stationnement, permettre un rééquilibrage pertinent et massif des pratiques. Nous devons clairement afficher notre ambition en termes de santé publique, et je pense en particulier aux émissions mortifères de nanoparticules engendrées par la circulation automobile. Nous devons nous battre pour assurer la cohérence de toutes ces actions, en particulier avec l'acteur majeur qu'est Metz Métropole, rôle qui va se renforcer dans le passage en métropole et pour lequel nous devons peser tous ensemble, toutes couleurs politiques confondues, afin que la gouvernance adoptée soit en parfaite adéquation avec les objectifs poursuivis et, je l'espère, plus ambitieux encore. Ce qui a été engagé depuis 2008, tant en termes d'écologie que de démocratie participative, est exemplaire.
Merci de conclure.
Dans la continuité avec l'héritage de Jean-Marie Pelt et de Roger Clem, et doit se poursuivre et se renforcer. C'est ce que nous devons à nos enfants et petits-enfants. Je vous remercie.
Merci. Merci. Alors, ensemble, M. Lekadir, Mme Agamemnon et M. Scudéry, pour 10 minutes. M. Lekadir.
Oui, M. le maire, je voulais remercier à la fois les services et René Darbois pour le rapport que nous avons sous les yeux, qui est un rapport important, même si on a le sentiment que la loi nous impose ce rapport, et donc on l'aborde avec parfois un regard un peu négligent. Je pense que c'est un moment important parce qu'il permet de poser un regard assez transversal sur la politique municipale. En réalité, le développement durable, c'est un état d'esprit, et je crois qu'on peut dire que dans notre ville, cet état d'esprit existe et qu'il est dans l'ensemble des délégations. Je voulais simplement, comme c'est un petit document, dire que je trouve pour ma part que les pages consacrées aux questions liées au tourisme, à la culture, au sport, aux loisirs est pour le moins extrêmement succincte. J'espère que ça ne tombera pas dans la main de quelqu'un qui connaîtrait pas Metz et qui croirait que ça se résumerait à ça. En réalité, c'est bien plus riche, notamment sur certains aspects qui sont fondamentaux, comme la question du vivre ensemble. Je pense aux projets extrêmement originaux que nous menons avec plusieurs collègues. Le projet Demos, qui permet d'emmener la musique classique partout et pour tous. Les résidences d'artistes, dont on va encore renouveler le dispositif à partir de ce mois de novembre. C'est aussi nos institutions de proximité que nous développons. La BAM, l'Agora, qui est d'ailleurs du point de vue énergétique un bâtiment assez exemplaire. Ou encore TCRM Blida, où le monde de demain est en train d'être imaginé et construit. Et enfin, nos grands événements, qui par ailleurs enjambent des thématiques qui sont d'actualité, qui sont purement développement durable. Je pense à Passage et à la question de l'étranger. Je pense au livre à Metz ou encore dernièrement à Constellation. Bref, c'est un état d'esprit qu'on retrouve dans de nombreux domaines, singulièrement dans la culture, où je crois nous avons une action assez riche et assez énergique.
Merci. Madame Agamemnon.
Oui, monsieur le maire, chers collègues, donc nous allons évoquer ce sujet sur Metz Ville durable et solidaire. Alors permettez-moi un tout petit cavalier, C'est seulement pour vous rappeler que Metz avait reçu avant-hier le trophée des collectivités locales dans la rubrique solidarité, justement, pour la ferme de Borny. Et sur la partie ville durable, je voulais rappeler aussi que Metz était finaliste des trophées de l'eau. Il y avait actuellement 9 candidats en lice hein, sur 100 ou 150. Et le prix final va être retenu après vote du public. Et donc, je vous invite toutes et tous à vous retrouver sur le site de l'Agence de l'eau pour voter pour notre ville. Et donc, effectivement, le service des espaces verts, parcs, jardins, espaces naturels a son quotidien sur la ville durable et solidaire. Alors moi, ce que je voulais dire sur ce rapport, c'est que nous avions travaillé en commission durable et nous avions examiné ce rapport. Et finalement, je voulais dire à l'ensemble des membres ici présents que nous avions beaucoup amendé le rapport dans sa version originelle. Et ça montrait que finalement, le développement durable et solidaire était dans toutes les actions et finalement sous-tendait énormément d'actes politiques qui étaient menés par l'ensemble des collègues qui sont dans cette salle. Alors, je pense notamment aux jeunes, aux seniors, à la petite enfance, à la culture, à la propreté. Enfin, je crois que quasiment toutes les thématiques s'attachent maintenant à développer la partie développement durable. Et ce rapport est certes extrêmement bien fait, mais à mon avis, il n'est pas assez représentatif de ce qu'on fait au niveau de la ville. Et j'ose imaginer que celui de 2017 sera beaucoup plus rempli et beaucoup plus touffu. Alors maintenant, je pense qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Vous savez que le gouvernement a présenté son plan climat à fin septembre. La stratégie nationale de biodiversité se retrouve dotée d'une nouvelle ambition et d'un nouveau souffle. Metz, qui était la ville de l'écologie urbaine, maintenant doit être précurseur en la matière. Alors je ne doute pas que l'agenda 21 qui va se mettre en place et qui est piloté par René Darbois se mettra en phase avec cette ambition politique, ça je fais confiance à René. Mais je voulais quand même aussi dire dans cette assemblée que nous avions travaillé avec un certain nombre d'élus sur le futur PLU de Metz et notamment son programme d'action et de développement durable. Et des mots comme le territoire zéro déchet, nature en ville, mobilité intelligente, smart city ou ville résiliente étaient sortis quand même à plusieurs reprises et montraient finalement une réelle envie de transformer en profondeur notre territoire. Et je crois qu'aujourd'hui, on a une vraie ambition en politique et qui doit se transcender tous les partis. Alors là, ça n'en déplaise à nos amis écologistes, mais je pense sincèrement qu'on aura réussi le jour où l'écologie ne sera plus un parti. Et voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vital. Et comme l'a dit René Darbois, on doit travailler ensemble pour le changement climatique. Merci à vous.
Merci. Merci, madame. Monsieur Scudéry.
Oui, monsieur le maire, chers collègues. Le développement durable, c'est bien, mais ça ne se décrète pas seul, évidemment, sinon c'est de l'affichage. Les solidarités, c'est bien, mais ça nécessite du collectif, sinon ça s'appelle de l'égoïsme. Alors je profite de ce point pour souligner et saluer la mobilisation des Messins en faveur du développement durable. D'abord, la concertation en elle-même, les différents temps d'écoute des habitants, 4 rendez-vous et encore un rendez-vous à venir qui ont mobilisé les Messins, 200 propositions retenues parmi les 380 faites par les habitants lors de ces différents temps de concertation, mais également, comme ça a été dit, les plus petits aussi. Le Conseil municipal des enfants qui a été exemplaire et qui a travaillé sur le sujet pendant plus d'une année. Par exemple, c'est la mise en place du parcours artistique dans le parc de la Cavalerie qu'on vient d'inaugurer pour protéger, respecter, inviter à l'admiration de la nature et de la biodiversité, mais également les vidéos qu'ils ont pu réaliser sur la tolérance et sur les solidarités. La ville rêvée, la ville de demain, la maquette qui a été exposée au centre Pompidou-Metz, ou encore les questionnaires qu'ils ont pu émettre pour susciter l'envie de faire attention aux gestes du quotidien, mais également sur le projet éducatif. Donc autant dire que les enfants étaient également à la manœuvre. Le dialogue avec les citoyens est également à l'honneur dans ce rapport. Les actions de réappropriation d'espaces peu respectés, on les voit apparaître avec les bornes électriques, entre autres, mais aussi toute la mobilisation des comités de quartier sur ces sujets. Je les salue également. Enfin, le budget participatif qui, comme dispositif qui concourt aussi aux réalisations dans ce cadre-là. Je prendrai seulement quelques exemples. D'abord, des exemples d'investissement sur le faire ensemble et respecter l'environnement, par exemple en diminuant les déchets avec le compostage collectif qui se développe à grande vitesse dans nos quartiers. Également les transports doux avec des volontés et des investissements en matière d'installation d'abris à vélo, par exemple. Le sport gratuit avec les aires de fitness en extérieur qui ont été proposées principalement par des jeunes de nos quartiers. Et également la solidarité et toujours trouver comment faire avec des choses dont on n'a plus besoin, avec ces boîtes à livres et les boîtes à dons qui sont en train de se développer dans nos quartiers. Voilà beaucoup de propositions qui sont mises en place et qui sont portées par les citoyens. Un ancien président de la République d'ailleurs revendiquait qu'ensemble tout devient possible, si je ne m'abuse.
Merci. Merci. Je vais demander à M. Darbois de répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées. M. Darbois.
Je vais commencer par vous dire qu'effectivement, je ne suis jamais content. J'ai peu entendu parler d'atténuation, de l'essentiel en fait, d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Savez-vous dans quel monde on vit aujourd'hui ? Avez-vous entendu les scientifiques s'alerter sur le danger du changement climatique ? On n'est même plus dans le combat, ça a été rappelé déjà. Nous ne sommes plus dans le combat, nous avons perdu ce combat-là, nous avons perdu ce combat-là, nous sommes aujourd'hui dans l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Excusez-moi, chers collègues, sortez de la cour de la maternelle. Grandissez un petit peu, il y a des enjeux. J'ai eu toute une série de critiques, etc. Effectivement, on peut critiquer. Le document n'est pas grand. Vous voulez un bottin téléphonique ? Tout ce qui est écrit là-dedans, ça pourrait remplir des pages et des pages. Est-ce intéressant de remplir des pages et des pages ? Il y a des chiffres. Est-ce que vous avez compris qu'en baissant entre 2008 et 2015, nos émissions de gaz à effet de serre sur les bâtiments publics, en isolant, certes c'est du passé, mais en isolant nos piscines, en isolant nos gymnases, etc., nous avons diminué quasiment de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Personne ne relève ça, c'est quand même dommage. Sur les bâtiments publics, privés, je vous en ai à peine parlé, je crois que nous aurons des bons chiffres. Et ce n'est pas facile. Guy Cambianica en a parlé un petit peu. C'est vrai qu'il faut agir là sur le bien privé. C'est plus compliqué et pourtant nous allons, je pense, y arriver. Sur les critiques que j'ai entendues, pas suffisamment de monde sur les conférences qu'organise notamment Marilyn Molinet. Il y en a de plus en plus. On ne peut pas forcer les gens. Il ne faut pas les faire alors. Parce qu'il n'y a que 50 personnes, il ne faut pas les faire. Ben, on les fait quand même. Et je peux vous dire que ça prend. Ça prend, peut-être pas assez vite, mais je ne vous y vois pas. Je ne vous y vois pas non plus. Alors venez. Sur les clauses sociales, les clauses environnementales, j'ai entendu quelques remarques, on va dire. Regardez ce petit objet que j'ai par hasard dans ma poche. C'est une clé. Le bois vient de Chine. La petite clé aussi. Et pourtant, on va dire que c'est développement durable puisque c'est monté en Bulgarie, donc en Europe. Voilà. C'est un exemple de greenwashing. Une clé en bois qui paraît tout à fait écolo. Et pourtant, le bois vient de Chine. La petite clé vient de Chine. Et le montage, on met la clé dans le bois, ça s'est fait en Bulgarie. Et on nous le vend comme un truc qui est... Voilà. Et ça, il y en a... J'ai pas voulu mettre ça là-dedans. Je veux qu'on reste honnête jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est compliqué, les clauses sociales et environnementales, parce qu'on a plein d'exemples de choses qui s'appellent effectivement du lessivage vert, du greenwashing, etc. Sur les chiffres, Madame Audouy, effectivement, je prends votre critique. Effectivement, c'est dans mes gènes, ça. Et c'est de ma faute, je le prends sur moi. Je suis plus aujourd'hui émissions de gaz à effet de serre évitées que euros. C'est peut-être un défaut. Je suis désolé, je reste écolo. Et Madame Agamemnon, je suis désolé, si on n'avait plus besoin des écolos demain, ben ça saurait et je serais très très content qu'on puisse enfin prendre notre retraite. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et encore aujourd'hui, y compris au niveau gouvernemental, je vois bien, n'est-ce pas Marianne, à quel point Marilyn, à quel point notre ami Nicolas Hulot a bien du mal, a quand même bien du mal. Heureusement qu'il est là, je ne sais pas combien de temps il va durer. Peu d'éléments financiers, etc. Je crois avoir répondu à l'essentiel. Je ne veux pas répondre. Je ne veux pas répondre aux questions qui touchent, parce qu'on a montré quand même dans les critiques une sacrée transversalité. Ça, je suis assez content de ça. On a montré que je ne peux, et je viens de le dire à monsieur le maire, je ne peux pas répondre à tout, effectivement, même si j'ai la réponse, même si j'ai un avis, parce qu'elle touche des délégations qui ne sont pas les miennes.
Merci, monsieur Darbois. C'est un beau débat. Et moi, je vous remercie tous et toutes, parce que nous ne sommes pas tous écologistes, mais ça intéresse tout le monde. Ça, c'est clair. Moi, je n'irai pas aussi loin que Mme Agamemnon. Je pense que les Verts qui nous ont rejoints depuis très longtemps sur ces bancs ici sont très utiles. Personnellement, c'est René Darbois, l'élu local ici présent dans cette assemblée que je connais depuis le plus longtemps. Je ne regrette absolument pas cette vieille fraternité parce qu'il m'a fait évoluer. Moi, j'ai travaillé dans le domaine aussi. Et finalement, on se fait tous évoluer. Je voudrais simplement apporter quelques précisions à quelques personnes qui ont posé des questions qui méritent intérêt et respect. La gare du Nord, la gare de Metz-Nord, je vais vous dire combien ça a apporté, mais ça apporte du monde. C'est clair et net, puisque le parking est plein de gens qui vont travailler à Luxembourg, à Thionville, tous les matins et très tôt. C'est-à-dire, et même ça déborde partout. Madame Ferraro, qui habite à côté, en connaît les conséquences, puisque ça se gare aussi dans son secteur à elle. C'est un succès. Maintenant, les chiffres, on va vous les donner. Je ne les ai pas directement. Deuxièmement, je voulais dire à M. Thiel que je suis toujours... Alors, sur l'urbanisme, hein. On peut discuter, mais la ZAC de l'amphithéâtre, dans son ensemble, elle comprend le jardin Jean-Marie Pelt. Hein, je vous le signale. Je ne voudrais pas l'oublier. Et donc, la partie jardin est quand même aussi importante que l'autre. Et ce n'est pas rien. Maintenant, s'agissant des fontaines, moi, j'en ai inauguré une place de la République, même deux. J'en ai inauguré une place Mazel. On n'a pas chômé par rapport à l'eau. Hein, et on est nominé, Madame Agamemnon vient de le dire, on est nominé pour l'aménagement de la Seille, qui est une véritable merveille, entre Marly pratiquement et Metz-Centre. Hein, on a transformé ce qui était autrefois un fossé anti-char bien droit, hein, à l'époque où les ingénieurs du génie rural des eaux et des forêts faisaient des fuches comme ça bien droites. Quand vous voyez les vieux plans de Metz, vous voyez la Seille qui serpentait. Après ça, on a fait un shoot, on a rectifié. Et maintenant, on remet ça comme c'était au 19e siècle. Je pense que ce travail sur la Seille, c'est un travail de reconquête d'un milieu naturel qu'on ne peut pas faire sur la Moselle principale parce qu'elle est déjà trop équipée depuis trop longtemps, mais qui est tout à fait intéressant. S'agissant de Roger Klein, je vous suis, c'est une personnalité très, très intéressante et on aura l'occasion d'en parler. S'agissant de la ligne 3, l'autre jour, je me suis installé à l'arrêt de la place d'Armes et j'ai discuté avec les gens qui attendaient. Il y en avait une quinzaine. Et j'ai discuté avec les gens qui descendaient, il y en avait une quinzaine aussi. Et j'ai vu les gens qui étaient là. Et je me suis dit qu'il n'y en a pas beaucoup qui prendraient un petit bus en changeant de bus. Je me continue à me poser la question. Ma religion n'est pas faite parce que ces personnes qui viennent de Voipy, dans ce sens-là, qui viennent de Metz-Nord, et qui arrivent en centre-ville, qui peuvent aller directement au marché couvert en centre-ville, ils traversent la place et je les voyais. C'est pas la même chose, je suis sensible au minibus, mais c'est pas tout à fait le même boulot que d'arriver directement en ville, alors qu'avec tous les autres bus, on arrive place de la REP, c'est-à-dire on est pratiquement au même endroit, c'est-à-dire très proche du centre-ville. Donc c'est un débat, je ne le ferme pas, mais je veux y réfléchir sereinement, et je ne veux pas... Oui, mais je suis en train de réfléchir à ça, je suis interpellé par ces personnes qui n'ont pas de porte-voix ici, qui n'ont personne pour les défendre, qui sont des gens... relativement discret et je ne voudrais pas passer par-dessus leurs intérêts parce que les gens qui depuis toujours prennent l'autobus, c'est en général ceux qui ont du mal à s'exprimer. Voilà, donc je suis réservé. Madame, vous avez dit la clause Molière, je ne suis pas favorable à la clause Molière. Non, je vous le dis tout net, je ne suis pas favorable à la clause Molière, je pense qu'on peut accepter que des travailleurs chez nous ne parlent pas bien le français. J'ai un voisin de Palier, juste en dessous, en face de chez moi. Il est en France depuis 40 ans et il ne sait pas le français. Voilà, il s'exprime sur les chantiers, il s'est exprimé. Ça, il a fait de la sidérurgie, il a fait du bâtiment, mais il ne sait pas le français. Et j'ai encore parlé avec lui aujourd'hui et quelquefois, je dis oui, je n'ai pas compris. Parce que je ne veux pas non plus. Et donc, on échange sur la pluie et le beau temps. Il y a des gens qui apprennent très facilement, très vite. Il y en a d'autres qui n'apprennent pas et qui foncent, qui se débrouillent. Et donc, cette clause Molière, elle sent un peu le fagot, si vous voyez ce que je veux dire. ça ressemble à un président de conseil régional qui va bientôt être président, paraît-il, des Républicains. Et pour moi, c'est loin de moi. C'est loin de moi.
Alors, les cas ne sont pas du même avis, puisque moi, j'ai refusé la clause Molière dans les marchés du Grand Est.
Monsieur Thiel, je ne vous mets pas dans le même sac. Monsieur Thiel, je dis simplement à Madame Zimmermann, je réponds sur la clause Molière, c'est important. S'agissant des travailleurs détachés, moi, je suis très content des résultats obtenus par le président de la République à Bruxelles, figurez-vous. Il m'arrive ici d'exprimer des mécontentements. Là, c'est une satisfaction, parce que c'était un sujet compliqué, difficile, et il y a un nombre élevé de pays européens qui ne veulent pas entendre parler de la modification des règles sur les travailleurs détachés. Et ce qui a été obtenu, c'est déjà important. Ce n'est peut-être pas suffisant, mais c'est significatif. Ça réduit la durée et ça oblige à payer de la même façon, toute prime comprise, charge comprise, la totalité du salaire dû par des travailleurs détachés. C'est une bonne chose. Vous m'avez abordé là-dessus. Je vous dis ce que j'en pense parce qu'il m'arrive assez souvent de dire ce que je pense dans un autre sens pour l'expliquer aujourd'hui. Et puis pour le reste, je voudrais vous dire que ce rapport-là, c'est le rapport de toute l'activité politique de la municipalité. C'est la totalité. Et M. Lecadire a raison, et chacun dans son coin a raison de dire que ça le concerne aussi. Parce que je vous rappelle que le développement durable, c'est trois choses. C'est l'environnement, mais c'est aussi le social, et c'est aussi l'économie. Et c'est les trois. Et quand on a été, comme l'a dit Mme Agamemnon, récompensé pour la ferme biologique de Borny qui est en train de se mettre en place, c'est parce que c'est des créations d'emplois. Et c'est la création d'emplois dans le domaine agricole pour des gens qui seront bien contents de travailler. Et ça fait partie aussi du développement durable. Je rappelle que ces trois pôles sont aussi importants les uns que les autres et que souvent, on a tendance à oublier le social et l'économique et à se limiter aux problématiques liées à l'environnement. Donc voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie tous d'être intervenus et d'être intervenus en respectant globalement les temps de parole. À qui ? La pastille pour les autos. Alors, madame, les autos, il y a des règles nationales. Nous avons un avantage. C'est que nous ne sommes ni à Grenoble, ni à Strasbourg, ni à Rouen. On n'est pas dans une cuvette, relativement pas dans une cuvette. On a l'avantage d'avoir des collines, mais il y a aussi le vent qui passe dans la vallée de la Moselle. Et nous sommes très rarement dans la liste des villes qui ont un taux de NOx, un taux de SO2 trop élevé. Parce qu'en fait, c'est ça. Et de poussière, presque jamais. Puisque nous avons, je dirais hélas, perdu l'origine de nos poussières dans notre secteur depuis belle lurette. Donc on n'est pas concerné par des agressions, on est moins concerné, pas concerné, j'exagère, moins concerné par les agressions sur les poumons que dans d'autres villes. Ce qui se passe à Paris, elle est courageuse, Anne Hidalgo, elle est courageuse, mais en fait, il y a urgence. Parce qu'il y a des milliers de morts tous les ans dans la région parisienne à cause de l'empoisonnement. Ils ont interdit les feux de cheminée. C'est des trucs incroyables. C'est la même chose que dans la vallée de l'Arve. On interdit les feux de cheminée alors qu'on croit que c'est des camions. Parce qu'en fait, les microparticules fournies par les feux de bois, c'est absolument terrible. Donc, au total, je ne vais pas courir avec le proverbe « le mieux est l'ennemi du bien ». Je pense qu'on va respecter ici scrupuleusement les règles qui sont mises en place progressivement par l'Union européenne. Je me méfie des simplifications du genre « c'est tout mauvais le gasoil, le diesel et c'est tout bon l'essence ». Il faut regarder en détail, il faut regarder l'âge et les équipements qui sont à la sortie des véhicules. Je connais bien le sujet parce que je m'y suis passé des heures et des heures avec les gens de PSA, y compris au plus haut niveau, avec M. Tavares, qui explique que des choses que souvent on ne sait pas. Donc, je reste, moi, prudent. Les seules pastilles pour l'instant que nous avons, c'est des pastilles pour les résidents, mais c'est des pseudo-pastilles parce que l'ordinateur, c'est d'avance, si vous êtes en règle et que vous êtes un résident qui peut se garer sur une place stationnement, il n'y a plus besoin d'avoir un macaron particulier. Avant, je regardais dans la rue de la Haye, tout fier, parce que c'était à mon initiative qu'on a mis ça. Je voyais tous les gens, je les connaissais, leur voiture, et puis ils avaient pris un macaron. Maintenant, je ne sais plus. Je ne sais pas si les voitures sont en situation régulière ou pas. Je ne sais pas si ce sont des résidents, parce que c'est uniquement sur ordinateur. Voilà ce que je peux répondre. Donc, pas de pastille particulière. La situation de Metz n'est pas la situation d'une bonne vingtaine de villes françaises qui ont l'inconvénient, s'il n'y a pas de vent, d'être rapidement dans leur jus tout le temps. Ils baignent dans ce qu'ils rejettent. Ils respirent ce qu'ils rejettent, ce qui est quand même effectivement gênant. Voilà, je ne mets pas aux voix puisqu'on prend acte et je vous remercie d'avoir participé à ce débat.